Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver. À la fois content parce que, voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. C'est toujours magnifique d'ouvrir la parole de Dieu. Mais aussi un peu craintif parce que, voilà, parler de la part de Dieu, c'est pas toujours facile. Et, voilà. Donc j'ai besoin de vos prières et on va prier pour ça. Notre Dieu. Merci encore pour ce culte. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Tout ce que tu représentes. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins. Tu nous as à la fois donné ta parole, qui est complète, qui est la révélation totale, qui est totalement inspirée de toi, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour enseigner, pour instruire. Mais tu nous as aussi donné ton Esprit Saint pour comprendre cette parole, pour nous rappeler tout ce que tu nous as dit. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour que ton Esprit Saint nous remplisse complètement et que nous puissions, Seigneur, vraiment goûter à cette parole, nous en imprégner, qu'elle puisse être agissante dans notre vie. Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide. Amen. Voilà donc l'histoire de Noé. Qui est-ce qui a fait l'école du dimanche étant enfant ? Avec quelques mains quand même ici. Qui enseigne à l'école du dimanche ? D'autres mains. Ok, donc l'histoire de Noé, ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous dit quelque chose? On va essayer de brancher. On peut passer en mode Apple TV, Maxime? Je vous ai préparé quelques diapositives. J'espère que ça va fonctionner. Un jardin pour deux, oui. Voilà, on va remplacer le jardin par la mer, alors. Voilà, ça devrait marcher. Ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? C'est tordu. Bon, on voit quelques animaux. On voit un poisson, donc on est bien à l'histoire de Noé. Voilà, donc il y a quelques personnes qui ont fait l'école du dimanche. Alors, c'est une histoire qu'on raconte classiquement, qu'on fait en couleur, vous voyez, là, il y a l'arc-en-ciel. Mais au-delà de ces histoires enfantines, je pense que si la Bible parle de l'histoire de Noé, c'est qu'elle a quelque chose à nous enseigner. Et donc, on a pris la décision, avec le groupe de ceux qui enseignent à l'Église, de s'attarder un peu plus sur ce personnage. Parce que c'est pas un personnage qu'on étudie classiquement. On étudie bien Abraham, Jacob, Isaac, voilà. Mais Noé, c'est un peu vieux, quoi. C'est avant le déluge, puis c'est une belle histoire d'école du dimanche. On s'arrête souvent là. Et donc, on s'est dit, ça serait bien de passer un petit peu de temps là-dessus, parce que ce n'est pas qu'une histoire pour enfants. C'est aussi une histoire pour adultes, parce qu'on peut aller au-delà de l'histoire simpliste, finalement, et on verra que cette histoire de Noé va nous enseigner beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit lui-même: si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un petit-enfant, au fond, que nous devons devenir? C'est quoi? Quelle est la caractéristique ou les caractéristiques d'un petit-enfant? Qu'est-ce qu'il a comme critères principaux, un petit-enfant? Il est innocent, oui.
Confiance.
Il a confiance, voilà, il a confiance. Quoi encore? Il écoute, ouais. Alors il écoute un peu moins de nos jours, on dit, mais quand même, il est censé écouter. Et après avoir écouté, il est censé faire quoi? Croire et voilà, obéir aussi. Hein, c'est pas toujours le cas, mais quand même les enfants dans l'ensemble, ils le sont. Hein. Voilà, donc confiance, écoute, obéissance. Il est simple aussi. Il est innocent, il est simple, il va pas chercher des trucs tordus. Hein, la Bible, c'est Jérémie qui dit que le cœur de l'homme est tortueux. Alors on sait que le cœur de l'enfant peut être déjà tortueux très jeune, mais quand même il est quand même simple. Donc on verra que toutes ces caractéristiques, eh bien quelque part Noé va les avoir d'une certaine manière. Hein, on va les détailler. Et c'est important de comprendre que si l'histoire de Noé est dans la Bible, si l'histoire de Noé est dans la Bible, c'est qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit prendra ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Alors Jésus est la parole, donc Jésus a permis, a écrit que dans la parole il y avait cette histoire de Noé, et on verra que c'est pas juste une petite mention, hein, qu'on y revient plusieurs fois. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui a quelque chose à nous enseigner. Et on a vraiment besoin, prier pour ça, pour que le Saint-Esprit nous enseigne ce qu'il a à nous enseigner. On va y passer donc 6 séances. Je vous déterre à ça tout à l'heure. Hein, ça peut paraître beaucoup, 6 séances sur Noé, mais vous verrez, avec des multiples intervenants, il y aura des croisements, des répétitions. Et par ce biais-là, ben, j'espère qu'à la fin du mois de juin, on aura quelque chose, chacun, ancré dans notre cœur, des actions à entreprendre dans nos vies. En tout cas, on a besoin de cet Esprit Saint pour nous éclairer sur l'histoire de Noé. Alors, ce que je vous propose pour ce matin, la chose suivante, on va voir pourquoi au fond il faut étudier l'histoire de Noé. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette histoire de Noé? Ensuite, on va voir qu'est-ce que nous dit la Bible sur Noé. Hein, elle est bien sûr racontée dans la Genèse, mais pas que. Ensuite, dans un troisième temps, on verra quels sont les caractéristiques de l'époque de Noé. On verra que l'époque de Noé, et on va s'attacher à ça aujourd'hui, l'époque de Noé finalement n'est pas si différente que ça de notre époque. Et surtout, est le reflet d'une époque particulière. Et enfin, on verra quelles applications on pourra en tirer pour nous aujourd'hui par rapport à cette histoire. Alors, tout d'abord, pourquoi étudier l'histoire de Noé? Eh bien, tout simplement parce que la Bible en parle. Ça paraît évident, mais la Bible en parle. Et elle consacre 5 chapitres, hein, du chapitre 6 au chapitre 10. Finalement, même un petit peu avant, chapitre 5 de la Genèse. Donc, 5 chapitres entiers consacrés à la description de l'histoire de Noé. Ça paraît long, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnages sur lesquels la Bible s'attarde beaucoup. Il y a Abraham, bien sûr, on a vu Jacob, les patriarches, le roi David, d'accord. Mais on n'a quand même pas beaucoup de personnes sur lesquelles on a autant de détails. C'est le seul patriarche finalement de l'humanité. Hein, Noé est un véritable patriarche de l'humanité. C'est un patriarche antédéluvien, comme on dit, et c'est très détaillé. Mais la Bible en parle plusieurs fois aussi. Il n'y a pas que la Genèse qui parle de l'histoire de Noé. Il y a d'autres passages de l'Ancien Testament. Il y a aussi des passages du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus y fait référence, et même l'apôtre Pierre y fait référence. Voilà. Vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, Noé est cité comme l'un des héros de la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit une arche. On relira ces passages, on reverra là-dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit, parce que nous vivons aussi une époque qui présente des caractéristiques qui sont similaires à un retour proche de Jésus. Et on va prendre ce texte tous ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le discours sur la fin des temps, Matthieu 24. On va faire une première lecture. Donc aujourd'hui, on va se promener un petit peu dans la Bible. Donc tenez votre livre ouvert, Matthieu 24, à partir du verset 36. Donc je vais lire dans la seconde 21. Matthieu 24, 36. Et c'est un discours sur la vigilance. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Verset 37, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Donc parallélisme entre les deux sociétés. On regarde la société de Noé, et on regarde notre société, et on regarde de quelle manière elle se rapproche de celle de Noé. Et plus elle va se rapprocher, plus on va arriver à la fin des temps. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Alors de deux hommes dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, etc. On nous parle du retour, on a déjà parlé du retour de Jésus, donc je n'y reviendrai pas, je le mentionnerai tout simplement dans quelques passages. Voilà. Donc on vit à une époque qui présente des caractéristiques proches de celles d'un retour de Jésus. Et enfin, la dernière raison, hein, après le fait que la Bible en parle, qu'elle en parle plusieurs fois, que Noé est mentionné comme un héros de la foi, que nous vivons dans une époque qui est voisine de celle du retour de Jésus. La cinquième raison, c'est parce que Noé démontre, dans son époque, certains traits de caractère et une attitude qui peuvent nous inspirer pour vivre au quotidien dans une époque similaire. Comment faire pour vivre dans un monde difficile, qui rejette l'Évangile, qui est étranger, on rame un peu à contre-courant? Eh bien, on peut observer des gens qui ont vécu ce temps, des gens qui sont certes imparfaits, qui sont pécheurs comme nous, de la même nature que nous, mais au moins on se rapproche d'eux, parce qu'ils sont, ils sont voisins. On verra que Noé n'est pas parfait, il a fait des erreurs dans sa vie. Donc on peut se rapprocher de Noé, mais Noé présente des caractéristiques qui peuvent nous aider. Et donc, nous aurons donc d'autres études sur le livre de Noé. Aujourd'hui, donc, c'est l'époque de Noé. La fois suivante, dans 2 ou 3 semaines, je crois, c'est moi-même qui, encore une fois, aurai le privilège de parler sur l'obéissance de Noé dans la construction de l'arche. Et puis après, c'est Philippe qui nous conduira dans glorifier Dieu dans ses petits quotidiens en maniant la scie et le marteau pendant de nombreuses années. Voilà, donc la troisième session sur comment Noé a eu la foi, la confiance et la persévérance pour construire cette arche. Dans une quatrième session que j'aurai le plaisir encore d'animer, nous verrons comment Noé à marcher un pas à la fois, en mettant un pas après l'autre. Comment Noé, finalement, a fait confiance à Dieu, a été patient. On verra la patience de Noé. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, la patience de Noé face à une situation qui se dégradait. Enfin, dans un cinquième temps, donc, c'est Jérémie. Jérémie qui nous parlera de comment soumettre sa vie totalement à Dieu, comme Noé l'a fait, comment soumettre sa vie totalement à Dieu et rechercher la faveur des dieux, de Dieu, accepter de paraître insensé dans une époque qui est à contre-courant. Donc Jérémie une cinquième fois. Et enfin, pour conclure, David nous conduira dans la notion d'alliance, puisque Noé est représentatif d'une alliance de Dieu avec les hommes. On a vu tout à l'heure, enfin vous le voyez sur l'image, l'arc-en-ciel est une alliance de Dieu avec les hommes du temps de Noé, et c'est David qui nous parlera d'alliance. Voilà donc pour le menu de ce printemps finalement, qui s'achèvera au mois de juin. Avec donc de multiples orateurs, on se réjouit d'avoir la grâce d'avoir beaucoup d'orateurs, parce que chacun a un éclairage différent, et chacun va présenter donc les caractéristiques de Noé sous un angle différent, avec sa personnalité, avec ses connaissances. Donc merci à Philippe, merci à Jérémie, merci à David d'avoir voulu accepter de faire cette co-animation. Finalement, c'est la collégialité exprimée dans l'enseignement, la collégialité exprimée dans la direction spirituelle de l'Église, l'implication de chacun dans les projets, dans le culte. Voilà, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu une Église unie, avec des gens différents, avec des gens qui mettent leurs talents au service du plus grand nombre et qui avancent patiemment jusqu'à ce qu'ils reviennent. Voilà, donc je reviens à mon texte sur l'histoire de Noé. Alors, on va reprendre donc l'histoire de Noé sur, finalement, qu'est-ce que nous dit la Bible sur l'histoire de Noé. Et on va prendre le texte d'origine, le texte qui est dans la Genèse, au chapitre 5. Donc on va lire du verset 21 au chapitre 6, verset 14. Que nous dit la Bible de Noé? Donc d'abord le texte original, on va dire, qui nous parle de Noé. Alors bien sûr, on abordera que le texte concernant la période. Je reviens à l'étude aujourd'hui. On va parler de l'époque de Noé et on verra ensuite, au travers des événements qui vont se poursuivre, on verra les différentes étapes que Noé a mis en œuvre. Donc je lis à partir du verset 21 du chapitre 5. À l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils Methuselah ou Mathusalem. Vous savez que dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle, donc c'est pour ça que vous avez dans vos Bibles différentes traductions, mais on met la voyelle qu'on veut, donc les traducteurs ont traduit Methuselah dans la seconde 21, Mathusalem dans d'autres Bibles. Hénoc marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah et il eut des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Voilà, donc l'un des ancêtres de Noé, son arrière-grand-père, c'était Enoch. Hein, le fameux Enoch, c'est le septième après Adam. Hein, donc il y a une généalogie Adam et Ève, donc ont des enfants. Il y a deux lignées, la lignée de Seth, qui est la bonne lignée, on va dire, et la lignée de Caïn, qui est la mauvaise lignée. Donc dans cette lignée, vous avez Enoch, qui est le septième, qui est un homme de Dieu, hein, puisque c'est un des seuls avec Élie qui a été enlevé avant sa mort. Et puis de l'autre côté, il y a la lignée de Caïn, avec le septième, qui est un Lémec, hein, qui est un Lémec dont il est parlé dans la Bible, qui est un mauvais, et c'est le summum de la méchanceté. Donc deux lignées qui évoluent en parallèle. C'est très important à comprendre, parce que quand on revient à l'origine finalement de l'histoire, et notamment Genèse chapitre 3, la chute, qu'est-ce qui se passe à la chute? Il y a l'homme faillit, hein, se sépare de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui est donnée au serpent, mais qui est donnée à l'homme et à la femme. Et notamment une promesse très importante, qu'un jour, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire Satan sera vaincu. Donc nous qui vivons à la fin des temps, hein, comme le dit l'apôtre Paul, on sait ce qui se passe, on sait que la postérité de la femme, c'est Jésus. Il a vaincu le diable à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que nous dit Paul aux Colossiens, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Voilà, donc Jésus a triomphé de la postérité de la femme, mais il faut savoir que dès que cette parole en Genèse 3 est donnée par Dieu, Satan, sa première stratégie, c'est d'essayer de corrompre l'humanité en permanence. En permanence, Satan, et plus il avance dans les âges, Satan a des milliers d'années d'expérience, plus il gagne en expérience, en dangerosité, en duplicité, père du mensonge, etc. Donc il va essayer au maximum de corrompre la bonne lignée, celle qui va conduire. Hein. On voit par exemple, il essaye de tuer Moïse parce que Moïse va jouer un rôle important dans la lignée, etc., etc. Et tout au long, il essaye de tuer Jésus au moment de sa naissance via le roi Hérode. Donc sans arrêt, Satan essaye de corrompre les choses pour retarder l'inéluctable qui est sa défaite. Voilà, donc faut comprendre ce contexte-là. Et donc Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Je reprends verset 25. À l'âge de 187 ans, Métouchéla eut pour fils Lémec, donc c'est un autre Lémec, hein, c'est le bon Lémec, lui. Métouchéla avait eu 782 ans après la naissance de Lémec, il eut des fils et des filles. Métouchéla vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Donc Métouchéla, ou Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. 969. Et donc on en a fait même un modèle de contenance, hein, un Mathusalem, je ne sais pas combien c'est, de bouteilles de champagne, mais hein, il y a des spécialistes, c'est combien de bouteilles? 6 litres, c'est le maximum, hein, c'est ça? Mathusalem. Bon, bah pour le mariage pour le mariage de Marine et de Geoffrey, des Mathusalem, hein, parce qu'il y aura beaucoup de monde, hein, à votre mariage. Voilà. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Tiens, c'est un nom de Boeing ça. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japhet. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Voilà, et donc, on verra la prochaine fois la suite. Donc, une époque de Noé qui est marquée par un certain nombre de caractéristiques. Alors, j'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, et notamment le chapitre 6 est un texte très très compliqué. C'est un texte très compliqué qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations, donc je ne vais pas faire une grosse exégèse aujourd'hui, c'est pas l'objet du texte. Il y a d'abord, vous voyez, dans ce texte-là, il y a des géants sur la terre. Le terme hébreu qui est utilisé, c'est le terme Néphilim. Néphilim. Ces géants, on ne trouve ce mot qu'une autre fois dans la Bible, donc deux fois seulement. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 32, lorsque les 12 espions partent explorer le pays de Canaan, ils reviennent en disant « Nous avons vu des géants de la race d'Anak ». Donc c'est une particularité. Quand on parle de géants, ce n'est pas des basketteurs, hein. C'est pas des gens qui font 2 mètres et quelque chose, c'est presque 3 mètres, voire même plus. Hein, on sait déjà que du temps de David, il y avait donc Goliath, qui était une reminiscence de ces géants. Et ce sont des gens qui avaient parfois des particularités, 6 doigts, 1 main, des bizarreries génétiques, on va dire. Hein, mais des gens vraiment très très géants. Donc ces Néphilim, ça veut dire littéralement en hébreu « ceux qui sont tombés ». Alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations sur ces géants. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on va dire que à cette époque-là, il y a quelque chose qui se passe sur Terre. Il y a une espèce de démesure, une espèce de gigantisme, avec des gens qui sont tombés, donc probablement c'est de la mauvaise lignée. Donc certains disent que ce sont des créatures semi-angéliques, puisqu'il nous est dit « et aussi ». Alors c'est pareil, là, Louis II ne traduit pas l'ensemble du terme hébreu d'origine. Mais est aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Donc certains disent il y a une fusion un peu du spirituel et de l'humain, hein, des anges déchus qui viennent s'accoupler avec des humains, des filles des hommes, hein, pour donner des espèces de créatures. Alors certaines personnes disent, et moi j'en sais rien honnêtement, donc je vous livre ça, font le rapprochement avec ce qu'on connaît de l'Antiquité. Parce que si on étudie quand même la tradition humaine, notamment les textes grecs, sumériens, babyloniens, égyptiens, on voit qu'il y a des bizarreries. Hein, le Minotaure qui avait des jambes de cheval et puis une tête d'homme. Et il y a des tas de bizarreries qui se passent. Quand on voit des figures égyptiennes, on voit des humains avec une tête de faucon. Alors, Il est possible que génétiquement il y ait eu quelque chose. Il est possible. Voilà. Il y a des gens qui échafaudent une théorie, d'autres qui la rejettent parce que il y a différents aspects. Mais il y avait quelque chose de bizarre. Hein. En tout cas, il y a d'autres personnes qui disent oui, il y a une fusion entre les deux lignées. Hein. C'est-à-dire que les fils de Dieu, ce sont les bons, les anges. Quand Jésus dit vous êtes tous des dieux, par exemple, il y a des personnes qui disent les fils de Dieu c'est la bonne lignée et les filles des hommes c'est la mauvaise lignée. Donc il y a une corruption entre la bonne et la mauvaise lignée. Et ça donne des gens qui sont mauvais, hein, puisque le plus et le moins en maths ça fait, hein, Philippe, ça fait un moins. Hein. C'est ça. Si on multiplie, ça fait un moins. Voilà. Donc bref. Du temps de Noé, il y a quelque chose qui se passe qui attire vraiment la colère de Dieu, quelque chose d'extraordinaire qui attire la colère de Dieu et qui ne l'attirera qu'une seule fois. Parce que Dieu promet après de ne pas détruire. Donc aujourd'hui, on sait qu'il se passe des abominations sur terre. Ça attire la colère de Dieu. Voilà. Mais à cette époque-là, il y a eu une telle colère qu'à un moment donné, la fin de toute chose a été décidée. Donc il y avait quelque chose de très très dur qu'on ne sait pas. Alors c'est pareil, il y a une littérature apocryphe, il y a des textes apocryphes qui décrivent ce que je vous ai dit, mais ce sont des textes apocryphes, c'est-à-dire non inspirés. Vous savez, les Bibles à rallonge, les Bibles qui ont des textes en plus, Et donc, comme c'est une littérature apocryphe, moi, je préfère m'en tenir au canon de l'écriture et ne pas vous livrer trop de détails pour pas vous perturber dans votre réflexion. Zut. Je reviens à mon texte. Voilà, c'est bon. Alors, donc, voilà cette époque de Noé. Dieu demande à Noé de construire une arche. D'accord? Donc, on le verra plus tard, mais la construction de l'arche, le mot arche, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas juste un bateau. Il y a d'autres mots dans la Bible pour décrire le mot bateau, notamment dans l'histoire de Jonas, il est parlé d'un bateau. Mais là, le mot arche, c'est un mot unique. Donc retenez ça, parce qu'on va le revoir dans les études futures. Hein, le mot arche, il est utilisé que deux fois dans la Bible. Dans ce terme-là, il est utilisé là, et comme par hasard, il est utilisé aussi dans l'histoire de Moïse. Le petit panier, là, c'est une arche. Voilà. Donc, vous voyez, on commence à avoir une espèce de similitude. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Éternel, à un moment donné, regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Il eut le cœur peiné. Alors, c'est un peu bizarre parce que le texte prête à l'Éternel des sentiments un peu humains. Hein, et le mot cœur, c'est le même mot qui est utilisé pour l'Éternel et pour l'homme. Le cœur, c'est pas juste cardia, hein, c'est vraiment le centre des émotions, des sentiments, de la volonté, de la pensée, de la décision. Donc ici, on a ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire que pour que nous, pauvres humains, puissent comprendre dans quel état Dieu est, eh bien, le texte, inspiré par Dieu lui-même, prête à l'Éternel, finalement, des sentiments très humains, peinés, affligés, qui sont des sentiments extrêmement forts, et à tel point que Dieu décide d'exterminer donc l'homme, parce qu'il y a une abomination qui nous est inconnue, qui ne nous l'est pas dit, et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Je sais qu'il y a quelques temps, j'ai lu un livre qui a poussé un peu cette interprétation. Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas de détails? Et je dois vous avouer qu'après avoir lu ce livre, j'ai eu pendant plusieurs jours un sentiment interne d'affliction extrême. C'est-à-dire que j'arrive pas à décrire ce sentiment, mais une espèce de peur que je me suis dit, mais comment ça se peut des choses comme ça? Qu'est-ce que fait Dieu? Et pendant un moment, j'ai commencé à douter de Dieu. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, je vous rassure, et j'ai toujours confiance en Dieu. Mais ça m'a fait douter. Et au fond, après avoir vécu cette expérience, je me suis dit, peut-être que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu qu'on ait trop de détails, parce que ça pourrait nous affliger. Après tout, la société antédiluvienne a disparu complètement. Mais de voir trop de détails, trop d'abominations, peut-être ça peut nous... Moi, ça m'a affligé. Je me suis dit, mais comment Dieu a pu laisser faire des choses comme ça? Imaginez des espèces de créatures. On peut imaginer toutes sortes de choses. Dans ce livre, le type fait référence aux dinosaures, etc. Vous voyez, les trucs, les bizarreries de la Terre pourraient peut-être s'expliquer par ça. En tout cas, voilà. Moi, j'ai été très, très affligé, très marqué. Dieu m'a consolé depuis, mais j'ai été très marqué par ça. Et je me dis peut-être que Dieu, dans sa sagesse, se contente de deux ou trois versets, très brefs, pour nous dire qu'à cette époque-là, il y avait des géants, point, célèbres héros de l'Antiquité. C'est une manière très douce, très soft, de décrire une abomination terrible qui a conduit au jugement. Si Dieu a jugé la terre et qu'il ne l'a plus refait par la suite, puisqu'on verra dans le livre d'Ésaïe, Dieu fait le parallèle entre la destruction par l'eau et le jugement du peuple corrompu de l'époque. Et Dieu va dire, plus jamais je détruirai. Donc, même si tu m'as abandonné, Israël, moi je ne t'abandonnerai pas en vertu de ma promesse. Voilà, je vous livre, c'est quelque chose de très personnel, mais je me dis que peut-être Dieu dans sa sagesse a permis ça, et c'est tant mieux pour nous. Donc j'en dirai pas plus. C'est un texte qui est très très difficile à interpréter. J'ai consulté plusieurs spécialistes. la fois donc des textes, des commentaires, mais aussi j'ai demandé l'avis à des érudits qui ont 70, 80 ans, qui ont fait des études bibliques, qui ont essayé d'expliquer le texte. On en a discuté, on a regardé les hypothèses. Donc je vous fais une espèce de résumé, mais voilà, c'est un texte difficile et je pense que Dieu est sage. Laissons-le avec sa sagesse et n'allons pas plus loin que ce que nous dit le texte. Voilà, donc Noé apparaît là, mais il apparaît aussi dans d'autres textes. Hein. Donc le texte de Hébreux 11, hein, c'est le texte le chapitre de la foi. Ésaïe 54, je vais vous le lire parce qu'on est déjà bien avancé. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, où Dieu dit donc, il en est pour moi, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Je vais jurer que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer, Israël. Et il y a ce texte donc bien connu. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Encore une fois, on voit ici que Israël, malgré ses abominations, Dieu dit que son amour ne s'éloignera pas en vertu de son alliance. C'est dire combien l'époque de Noé devait être terrible pour que Dieu n'ait pas arrêté son jugement et qu'il ait entraîné ce déluge. Et puis en Ézéchiel 14, ce texte que vous connaissez aussi, hein, il dit « Fils d'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. » Donc Noé est cité comme un des justes de l'Antiquité, de la même manière que Job et Daniel. Ce Daniel qui n'est pas le Daniel, hein. Certaines versions ont le mot Daniel, c'est pas le Daniel prophète, c'est un autre qui nous est pas connu. Voilà, donc hein, encore une fois, Ézéchiel cite Noé comme un exemple de justice. Donc il y a cet écho dans la Bible qui revient sans arrêt, hein, plus les textes du Nouveau Testament, les textes de la première et de la deuxième épître de Pierre. Je vous l'ai lu aussi, 1 Pierre 3, 18-20, quand il est parlé de Jésus qui a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Là, ici, on a donc, dans les épîtres de Pierre, c'est à propos la patience de Dieu et la notion de salut au travers l'eau. Quelque part, l'eau a un rôle ici purificateur, on le verra tout à l'heure, un rôle de renouvellement, et l'apôtre Pierre va l'utiliser aussi comme image du baptême. Hein? Voilà. Et 2 Pierre 2, 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. On verra donc Noé, prédicateur de la justice, il y aura une étude là-dessus, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc vous voyez que tout au long de la Bible, jusqu'à la fin, il est parlé de cette histoire de Noé, avec les caractéristiques de Noé, cette notion d'ensevelissement, cette notion de salut par l'eau, de destruction, de quelque chose de mauvais. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce que nous dit la Bible sur Noé. Maintenant, rapidement, on va avancer. Quelles sont les caractéristiques de l'époque de Noé? Alors, j'en ai retenu 7. Et la première de ces caractéristiques, c'est que c'était une société qui était marquée par l'absence de repos. Comment on le sait? Ben parce que Lémèque, qui est le père de Noé, au moment où il a son fils, il le nomme Noé. Et Noé, ça veut dire repos, réconfort, consolation. Vous savez que le nom à l'époque avait une très très grande importance. Le nom signifiait quelque chose. Ça veut dire que Lémèque, le père de Noé, vivait dans une époque extrêmement difficile. Une époque agitée parce qu'il nomme son fils repos. C'est un peu un acte de foi, un acte d'espérance. Dans une société dure, je nomme mon fils repos parce que je regarde à la promesse de Genèse 3 où l'Éternel nous promet qu'un jour la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et nous donnera le repos que nous avions dans le jardin d'Éden. Donc cet acte de foi de Lémèque, le père de Noé, permet de, quelque, de donner une espérance à cette génération, cette bonne lignée, finalement, par rapport aussi à la malédiction. Hein. La malédiction de la terre, Dieu avait maudit la terre en disant « Tu tireras ton pain à la sueur de ton front et il multipliera les douleurs et les grossesses de la femme. » Voilà, une société marquée par l'absence de repos, ben, ça nous rappelle quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont agités, où ils n'ont pas de repos, où ils sont en dépression. On sait qu'il y a un manque de sommeil chronique chez la plupart des gens. On mesure les conséquences du manque de sommeil. Il y a des centres du sommeil qui se créent dans les hôpitaux. Donc on a une société comme la société de l'époque, une société où il y a un manque de repos. Et il y a deux manières d'obtenir le repos. Soit on cherche à aller contre Dieu, société rebelle. Rebelle à Dieu en permanence, cette lignée rebelle à Dieu, et on va chercher le repos par d'autres moyens. Par exemple, on va essayer de contrer la malédiction de Dieu. Comment ? Eh ben, on invente toutes sortes de technologies. On fait des machines à laver, des voitures, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont bons en eux-mêmes, mais quelque part, c'est l'intelligence de l'homme créée à l'image de Dieu qui va créer des outils pour contrecarrer la malédiction de Dieu. La deuxième, bien entendu, c'est entrer dans le repos de Dieu. Hein ? L'Épître aux Hébreux en parle, je n'ai pas le temps de retenir, mais au chapitre 4, par exemple, hein, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans leur repos. Il y a cette image du repos, de l'entrée dans la terre promise, l'espérance future, ce que Philippe nous a lu, la Nouvelle Jérusalem, qui sera un temps de repos restauré du Jardin d'Éden. Donc, soit on vient à Jésus pour trouver le repos, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc soit on rentre dans le plan de Dieu pour obtenir le repos, soit on est rebelle, et à ce moment-là, on va faire toutes sortes de choses, le travail, l'entreprise, les grands groupes. À quoi ça sert les grands groupes ? Alors maintenant, c'est moins vrai, mais pourquoi les gens créent des entreprises ? Ça permet de faire bosser les autres. On crée des groupes, on fait travailler les autres, et on a du capital, on fait fructifier le capital. Pendant ce temps, on le place aux Bahamas, et on part en croisière toute l'année. Ben, c'est comme ça. Les gens qui ont le capital, ils sont, entre guillemets, au repos. Ils sont pas au repos spirituel, mais ils sont au repos physique. Et pendant ce temps, il y a les autres qui travaillent. Révolution industrielle, 18e siècle, 19e siècle en Angleterre. On fait travailler les gens. Et donc, pour essayer de contrecarrer de manière personnelle, humaine, la malédiction divine. Donc société qui est violente et agitée. Hein. La Bible nous le dit, la terre était pleine de violence. Aujourd'hui, on a beaucoup de violence. Violence physique, violence verbale, les agressions sont de plus en plus violentes. Les agressions à main armée, violence dans la rue, violence dans le bus. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le propos. Mais une société marquée par l'absence du repos. Deuxième caractéristique, société de la démesure. Hein. Donc on en a parlé, hein. Ces fameux géants représentent la démesure de l'époque. C'est la notion d'intensité, d'excès, accès immédiat à un objet de désir. On vit une société où il y a une volonté d'accès immédiat à un objet de désir. Je veux tout de suite. Il y a eu des tas d'analyses sociologiques. Jean-Pierre Coutron, par exemple, a fait toute une analyse. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le propos. On est dans le culte de la performance. On est dans le toujours plus. La plus haute tour, le plus grand bateau, le plus grand paquebot. Même l'Église est frappée. Les méga church. Plus on a une grande Église et plus on a du succès. Super. 4000 membres. John MacArthur. Je ne sais pas si vous êtes allé chez John MacArthur. Il a une église, c'est tout plat, c'est un peu en pente, d'accord ? C'est pas un amphi, c'est tout plat, un peu en pente, d'accord ? Vous rentrez, et puis tout au fond, au loin, si vous avez des bonnes lunettes, vous voyez le prédicateur, vous voyez un grand chœur, donc au moins 50 personnes qui chantent les cantiques, donc vous chantez presque plus, parce qu'il y a des professionnels qui chantent, voilà, et donc vous avez 3 000-4 000 personnes, et il paraît qu'on fait plus grand encore. On peut mettre des amphis, on peut empiler des étages, donc c'est le méga. Voilà, c'est les géants, c'est le méga. Une société marquée par le gigantisme et la démesure. À l'époque, c'était ça aussi. Troisième caractéristique, une société qui est addictive. Une société qui est addictive. Donc, je vous ferai grâce de toutes les addictions possibles et imaginables. Le sociologue Patrick Farrow, aujourd'hui, parle d'addiction de masse. C'est-à-dire qu'il y a des addictions à des tas de choses en masse. C'est pas, même pas personnel, c'est une addiction de masse. Et par exemple, quand on regarde l'épisode de Lot à Sodome, on a une addiction sexuelle, homosexuelle. Et c'est intéressant, enfin c'est intéressant, non, c'est pas très intéressant, mais il faut le noter quand même, que lorsqu'on a cet épisode où les anges sont avec Lot et que la foule se précipite autour d'eux, il nous est dit que c'est du plus petit jusqu'au plus grand qu'ils ont entouré Lot et ses anges pour abuser d'eux. Du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune au plus vieux. Une addiction de masse, sexuelle, drogue, café et tout ce que vous voulez rajouter derrière. Le psaume 16, verset 4 nous dit « On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers. » Et au fond, c'est quoi une addiction ? C'est une idole. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Donc des périodes d'addiction de masse qui, de plus en plus, courent après des dieux étrangers. Et il est vraiment effrayant de constater combien une société qui n'est pas attachée à Dieu peut dériver rapidement. Prenez tout l'exemple de l'histoire. Le peuple d'Israël qui rentre dans le pays de Canaan. En une génération, les juges, patatrac, ça recommence. L'église primitive qui démarre, en une génération, ça recommence. La réforme, 15e siècle, 16e siècle, en deux ou trois générations, ça redémarre. Je ne l'ai pas fait ici à l'église, mais j'avais fait dans une autre église une étude sur Jonathan Edwards, qui était un homme du réveil au 18e siècle, le réveil sur la côte est américaine, Boston. Hein, vous connaissez peut-être Jonathan Edwards de nom. Hein, c'est un prédicateur, un homme de foi très connu. Et à l'époque, j'avais dit, mais en 1620, le Mayflower arrive aux États-Unis, donc des gens zélés pour la foi. Au moment où Jonathan Edwards arrive, donc deux siècles plus tard, la foi s'est complètement éteinte dans la région de Boston. Et donc là, il y a un réveil spirituel, etc. 1800, je ne me souviens plus, Jonathan Edwards, 1700 quelque chose. Aujourd'hui, on était à Boston l'année dernière, on était à l'église occulte, dans une église locale, on a eu du mal à trouver une église. Et les gens nous disaient, mais vous savez, la foi, elle est complètement éteinte dans la région. Il n'y a plus rien. Foyer, terreau d'immigration, 1620, le Mayflower, les pères pèlerins. Donc il y a eu une première extension et aujourd'hui une deuxième extension. Donc à quelle vitesse l'humanité non attachée à Dieu peut dériver et se corrompre, c'est terrible. Donc veillons sur notre foi, veillons sur notre Église, parce que demain, rien n'est assuré. Cette église, demain, peut s'éteindre si nous ne veillons pas. Et c'est une veille collective. Les anciens, bien sûr, parce qu'ils ont la garantie spirituelle, mais nous aussi, nous avons à veiller sur notre église. Parce que l'exemple de Noé nous montre à quel point une humanité corrompue peut dériver rapidement. Société de l'addiction. Société de la jouissance, de l'hédonisme. Du temps de Noé, nous dit Jésus, en Matthieu 24, les hommes mangeaient et buvaient. Voilà, c'est la société de la jouissance. On en profite au maximum. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Je n'insiste pas là-dessus. Société de la routine. Les hommes mariaient leurs enfants. Il se passait des choses ordinaires. Renouvellement des générations, les gens se mariaient. C'est une société de la routine. Et la routine, il faut faire attention, notamment dans la vie chrétienne. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce texte d'Ézéchiel, où Ézéchiel finalement va mentionner le crime de Sodome. C'était quoi le crime de Sodome ? C'est quoi le crime de Sodome ? C'est quoi le crime de Sodome ? Voilà, homosexualité. Les gens pensent à l'homosexualité. C'est juste. Mais la Bible nous dit, parce que l'œil de Dieu est plus perspicace, il nous dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Donc l'homosexualité est une conséquence d'autres choses. Premièrement, l'insouciance. On cherche aujourd'hui l'insouciance. Je ne veux pas avoir de soucis. Je dis merci Seigneur pour les soucis. Parce que si je n'ai plus de soucis, Alors, je dis pas qu'il faut être masochiste, hein, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais merci Seigneur pour les soucis, parce que ça me maintient dans la dépendance de Dieu. Insouciance à Sodome, abondance de pain. Qui n'a pas de pain aujourd'hui? Levez la main, qui n'a pas de pain tous les jours dans son frigo, sur sa table? Bon, il n'y a personne, c'est bien. C'est normal, vous êtes honnête. Abondance de pain, pas de souci du pauvre, on abandonne le pauvre, orgueil et abomination. Donc c'est ça en fait, la société de la routine, c'est la société de l'insouciance. On a du pain en abondance, on se fiche des gens qui sont en difficulté, on pense à sa propre vie, on pense à jouir, etc. Voilà. Et on devient orgueilleux. Et c'est la catastrophe qui contribue à alimenter ce que vous avez dit, homosexualité, etc. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Au moins dans nos pays occidentaux. Il y a des gens qui sont sous les teignoirs en Algérie, dans des pays persécutés. Donc société de la routine. Et puis une société aussi où le culte du jeunisme, de la perfection, de la beauté, le culte du corps, le fantasme de la jeunesse éternelle, l'évacuation de la mort, etc. Voilà. Hein? Donc je passe sur ce détail. Je passe sur ce détail pour arriver à la septième caractéristique, c'est la corruption. La société corrompue. Alors on va revenir sur notre texte de Genèse 6 parce que c'est intéressant, cette idée de corruption. Voyez, reprenons ce texte de chapitre 6, verset 11. « La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre, constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. » Trois fois, en un verset, dans deux versets, Dieu répète le mot « corruption ». D'accord ? Donc, si c'est répété trois fois, c'est Daniel qui le dit à Belshazzar, Daniel qui le dit à Nabucodonosor, si la chose a été répétée. Non, je suis en train de faire une bêtise, je crois que c'est Joseph qui dit ça. Si la chose s'est répétée deux fois, c'est que l'Éternel l'a résolue. Donc s'il y a une répétition ici, c'est que c'est quelque chose de très fort. Il y a l'idée donc de corruption, il y a l'idée de destruction, et il y a l'idée de ruine. D'accord ? Ruine de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'est ce que nous dit le texte. Mais ce qui est intéressant, si on va dans le détail du texte, regardez ce qui est dit ici au verset 13. Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est proche, je vais les détruire, car ils ont rempli la terre de... La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Le mot détruire ici que Dieu utilise... C'est le même mot hébreu que le mot corrompu. C'est le même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, parce que l'homme est tellement corrompu, détruit, complètement anéanti en lui-même, par sa corruption, alors Dieu les détruit. C'est pas Dieu qui est un espèce... Les gens disent toujours, mais Dieu est violent dans la Bible, c'est quoi le Dieu d'amour, etc. Dieu, ici, il détruit ces hommes parce qu'eux-mêmes le sont déjà. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, la truie est retournée à son bourbier, le chien retourné à son vomi. Parce que les hommes sont tellement détruits, Dieu ne fait que prolonger leur élan. De la même façon que Pharaon s'est endurci, et au bout d'un moment, Dieu endurcit son cœur. Il lui dit, mais va jusqu'au bout, quoi. C'est intéressant de voir cette similitude de mots, ce mot destruction qui est utilisé après dans la conquête de Canaan, etc. Ici, on voit qu'on a une similitude. L'homme est tellement corrompu, sans la grâce de Jésus, on est tous comme ça en fait. On est tous comme ça. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, parce qu'on est vraiment, on est corrompu. Et dans le psaume 14, qui commence par « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont tous corrompus », on retrouve le même mot hébreu. Donc les gens qui disent « il n'y a point de Dieu », les gens qui rejettent Dieu, ils sont corrompus. Mais ça peut aller très très loin, jusqu'à la destruction. Et Dieu ne fait que prolonger l'élan de ces hommes corrompus. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Noé, c'est tout un symbole. Donc si vous pensez que vous vivez aujourd'hui dans une époque difficile, dites-vous que Noé aussi, il vivait dans une époque difficile qu'on a détruite. Pensez à Noé. Pensez à Noé. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements de la société seront versés, que peut faire le juste ?» Dans la semeur, il est traduit autrement, lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ? Et heureusement, il y a le verset 4 du psaume 11. L'Éternel est dans son saint temple. Donc, malgré cet état de dégradation avancée de la société de l'époque, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est ce qui nous est dit là. Verset 8, ce verset magnifique. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Cet intermède des premiers versets du chapitre 6 qui annonce une catastrophe, un état de corruption et de dégradation. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il est juste et intègre. Noé n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme qui désire vivre une vie conforme. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite des études. C'est quoi une vie conforme? C'est quoi les caractéristiques de Noé? En quoi les caractères de Noé peuvent être un modèle pour nous? En quoi est-ce que nous pouvons être dans ce monde corrompu, sel et lumière, en regardant le modèle de Noé? Et comment on peut faire pour nous préserver de la corruption ambiante? Alors Noé, c'est tout un symbole, pour conclure. C'est le symbole de l'ensevelissement. Je vous laisse lire le texte de l'Épître aux Romains. C'est le symbole de l'ensevelissement, c'est le symbole du renouvellement. D'accord, il y a un renouveau. Quand Noé sort de l'arche, une nouvelle humanité se recrée. Elle va se corrompre, encore une fois, mais il y a toujours cette espérance de la venue du Sauveur, du Messie, qui viendra et qui est venu. Et puis, il y a ce symbole donc de l'homme juste et intègre. Noé, symbole de l'homme juste et intègre. Noé, symbole de la période du retour de Jésus-Christ. Donc tout ça, je voulais juste vous mettre l'eau à la bouche aujourd'hui. Ça va être un temps qui sera magnifique. On va vraiment se faire du bien. On va regarder ça un petit peu tous ensemble, grâce à Jérémie, grâce à Philippe, grâce à David. Et on va se faire du bien tous ensemble. Et la question que j'aimerais vous laisser pour conclure, c'est qu'est-ce que je peux faire finalement dans cette époque difficile pour me garder et me préparer au retour de Jésus? Voilà, c'est toute la question. Et on essaiera de la résoudre ensemble. Bonne fin de journée.